Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Explosion du 3 mai dans le site des déplacés de Lushaga, là au nord Kivu. Au moins 27 blessés sur la trentaine des victimes suivent des soins à l'hôpital Bethesda CBCA de Ndosho. Ces personnes disent avoir vécu l'horreur ce jour-là. Entre-temps, les corps des défunts sont encore à la morgue en attendant l'organisation des obsèques et une délégation du gouvernement central est attendue à Goma pour ce faire. Après la menace d'être destitué, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale publie le calendrier réaménagé de l'élection et l'installation du bureau définitif. Ce calendrier fixe pour le 18 mai prochain l'élection des membres du bureau définitif. Et puis, l'invité de ce midi, Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC, le programme des Nations Unies pour le développement finance les travaux de paix d'El 145 territoires dans 9 provinces. 6 ouvrages sont déjà réalisés dans le Maniema sur 103 attendus dans cette province. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Au moins 27 blessés sur la trentaine des victimes de l'explosion survenue dans le site des déplacés de Lushagala le 3 mai dernier suivent des soins à l'hôpital Bethesda CBC Ndosho appuyé par le CICR. Ces personnes témoignent avoir vécu l'horreur ce jour-là alors qu'elles étaient tranquilles dans leurs abris. Parmi ces victimes, des familles complètement affectées par des morts et des blessés, une situation traumatisante. Entre-temps, les corps des défunts sont encore à la mort une semaine après l'incident, ce en attendant l'organisation des obsèques. Sifama Gourou a rendu visite à ses blessés. Voici son reportage.
Parmi ces blessés, une jeune femme qui a perdu ses 3 enfants, dont un bébé de 2 semaines, alors qu'elle-même et son fils aîné de 7 ans sont grièvement blessés par des éclats. Explication de sa belle-sœur qui est gardée malade.
Au moins 4 bombes sont tombées et la 5e est tombée à l'église CEPAC bloc 4. On nous dit que ma belle-sœur est morte avec ses 4 enfants. Jojo a reçu des éclats au ventre, sur toutes les 2 jambes, les mains et au visage. Nous sommes allés dans d'autres hôpitaux. On nous dit qu'on a reçu un bébé décédé et on a compris que c'est notre enfant parce que la maman venait d'accoucher il y a 2 semaines.
La plupart de ces blessés sont venus des Sake, Chacha et alentour. Élisée Hangi, une autre mère qui a 2 enfants blessés, nous raconte comment ils ont été surpris par cet incident.
Nous étions à la maison sans s'attendre à quelque chose. Subitement, nous nous sommes retrouvés par terre. Beaucoup de gens ont perdu connaissance, moi-même aussi. On s'est retrouvés ici à l'hôpital. Et pour arriver ici, c'était tout un problème. Pas de transport et des coups de feu retentissaient.
Toutes ces familles sont encore sous le choc après avoir vécu cette explosion et ne souhaitent qu'une chose, rentrer dans leur village, même si ce n'est pas garanti. Goma, Sifama Gourou, Radio Okapi.
Et pour faire face à cette situation d'urgence, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a dû augmenter sa capacité d'intervention à l'hôpital CBCA afin d'assurer une bonne prise en charge aux blessés qui affluent dans cette structure spécialisée en chirurgie de guerre. Sur place, parmi les blessés qui suivent des soins, certains sont déjà stabilisés, tandis que d'autres présentent encore des traumatismes. Aliona Sinenko, porte-parole du CICR, explique la situation au micro de Sifama Gourou.
Vendredi dernier, nous avons reçu 27 patients. 26 entre eux, c'était les femmes et les enfants. Beaucoup d'entre eux sont arrivés ici en état très très grave parce qu'on ne parle pas uniquement des blessures par balle, mais on parle des blessures causées par des engins explosifs. Donc ce sont des blessures très complexes qui font beaucoup de dégâts et il y a beaucoup de défis. Si vous avez vu, il y a des tentes que nous avons installées dehors et ça montre que en fait depuis déjà plusieurs mois l'hôpital il travaille au-dessus de sa capacité, que nous avons pas assez d'espace pour tous les patients dans les salles. Donc mais c'était la seule chose qu'on pouvait faire rapidement pour pouvoir accueillir tous ces patients. Donc la situation reste difficile. Notre équipe continuent de travailler. Au moment donné, ils ont passé d'une équipe chirurgicale à 3 équipes chirurgicales qui travaillaient aussi les week-ends, les jours fériés, sans arrêt.
Entre-temps, dans le territoire de Beni, toujours au nord Kivu, 8 morts et des disparus avec un centre de santé saccagé. C'est le bilan encore provisoire d'une nouvelle attaque des rebelles des EDF dans la localité de Mantumbi, secteur de Benimbao. La société civile territoriale parle d'un déplacement massif de la population vers des localités du territoire de Mambasa en Ituri, jugées sécurisées. Pendant ce temps, l'armée dit être à la trousse de ces rebelles pour tenter de sauver les otages. Parlant de l'Ituri, des centaines de familles ont regagné leur village d'origine et les activités agricoles et économiques ont repris dans 3 groupements sur le tronçon Komanda-Luna dans le territoire d'Irumu, constat fait mercredi par les acteurs de la société civile locale lors d'une séance d'évaluation de l'accord de paix signé en juin 2023 entre les comités, les communautés locales et les groupes armés locaux. C'était grâce à l'appui de la MONUSCO pour la cohabitation pacifique et la restauration d'une paix durable dans la région. Isaac Remoyope, reportage.
Inakami s'observe depuis la signature de l'accord de paix entre les communautés Lesse et Nande dans les chefferies de Walese, Vonkutu et Basili, affirment des sources locales. Les groupes armés Chiniatuna et Maïmaï, qui protégeaient les intérêts de ces deux ethnies respectives, ont renoncé aux violences qui avaient entraîné les déplacements des populations d'environ 70 villages le long de l'axe routier Komanda-Luna. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH soutient que plus de 800 familles ont déjà regagné leurs milliers dans les groupements Bandiango, Bokucho et Bandiamousso. Ces retournés ont repris les activités agricoles dans la zone. Les boutiques et les marchés des vivres sont également opérationnels. Cependant, un retour timide des agriculteurs s'observe notamment à Apindi 1, 2, 3 et Mangiva. La commission de suivi de ces dialogues, composée des ressortissants des deux communautés jadis en conflit des terres arables, poursuit la campagne de sensibilisation pour consolider ses acquis de paix. Cette structure sollicite l'appui du gouvernement et de la MONUSCO, dont une équipe s'était rendue le week-end dernier à Komanda pour évaluer l'impact de cet accord de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Province du Haut-Lomami, la société civile de Malimbankoulou tire la sonnette d'alarme. Plusieurs barrières sont érigées par des hommes en uniforme dans plusieurs villages du secteur de Badia. Ces derniers tracassent et rançonnent la population. La société civile invite les autorités à démanteler toutes ces barrières pour faciliter la circulation de la population et ses biens. On écoute à ce sujet Bovik Mujinga, coordonnateur de la société civile à Malimbankoulou. Il est joint par Jean Gandou.
La société civile dans sa diversité territoire de Malimbankoulou vient dénoncer l'existence de beaucoup de barrières érigées dans les secteurs de Badia. Dans les villages de Kingombe, Moussao, Kisanga, Kalengei, Kalongo, Kikose et autres. Nous demandons le gouvernement provincial national qui est l'administrateur du territoire de Malimbankoulou de bien prendre la disposition pour que les barrières ne soient pas érigées. Dans le secteur de Badia, oui, le territoire de Malimbankoulou, nous ne sommes pas en guerre. La société civile déplore beaucoup les inciviques qui tracassent la population de Badia. Surtout les gens qui viennent des Kabongo, des Kasai, ils sont en train de souffrir lors de son passage vers Malimbankoulou.
Pour sa part, l'administrateur du territoire de Malimbankoulou reconnaît avoir été alerté pour cette situation. Pour lui, toutes ces barrières sont illégales et ceux qui les érigent ne sont que des bandits qui disparaissent après avoir rançonné la population. Joël Kaimbe promet de mettre fin à ce phénomène dans les tout prochains jours. Je vous l'ai dit dans les titres, après menace de sa destitution, le bureau d'âge vient de rendre public le calendrier réaménagé de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, publié tard hier dans la nuit et parvenu ce matin à Radio Kapi. Ce calendrier fixe pour samedi 18 mai prochain l'élection des membres du bureau définitif. Plus de détails avec Michel Kifindangoy.
Conformément aux articles 100, 111, 112 et 114 de la Constitution, ainsi qu'aux articles pertinents du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge convoque enfin l'électorat pour l'installation du bureau définitif. D'après le bureau provisoire, le calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale comporte 5 phases. Il va du dépôt des candidatures prévues pour demain vendredi à l'installation du bureau définitif samedi 18 mai prochain. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif seront présentés par la majorité, l'opposition et les non-inscrits auprès du président du bureau d'âge. Sous peine d'irrécevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée d'une lettre de consentement signée par le parti ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Le dossier de candidature devra aussi être accompagné d'une photo passeport et d'un curriculum vitae détaillé. Toutes les candidatures déposées après lundi prochain à 17h seront déclarées irrécevables, précise la décision du bureau d'âge.
Je vous rappelle que plus de 100 députés nationaux réunis au sein de la dynamique surveillance menaçaient Christophe Mboso et son bureau d'âge de destitution s'ils ne relancent pas le processus de élection et d'installation du bureau définitif. Sud Kivu, fin ce jeudi de l'opération de réception et traitement des candidatures aux élections municipales dans la province, la CENI antenne du Sud Kivu dit constater malheureusement que les candidats conseillers urbains et les bourgmestres ne manifestent pas assez d'engouement. 31 formulaires seulement ont été retirés, mais aucun dossier physique des candidats n'a été déposé au bureau de la CENI. Le secrétaire exécutif provincial antenne Sud Kivu déplore cette attitude des candidats qui ne respectent pas le délai. Pius Bikungu pense que la CENI devrait mettre fin aux prolongations pour stimuler les candidats qui excellent dans le retard. Pius Bikungu, dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
C'est depuis le 25 avril 2024 que nous avons ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures des conseillers urbains et de bourgmestres et bourgmestres adjoints. Nous avons déjà vu les gens venir retirer les formulaires. Nous avons jusqu'hier 18 personnes sont venues retirer les formulaires pour les conseillers urbains, tandis que pour les bourgmestres, il n'y avait que 13. Mais jusque-là, il n'y a aucune personne qui a déjà déposé un dossier de candidature. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2024. C'est le dernier jour de réception et de traitement des dossiers de candidature. Nous attendons, peut-être au courant de la journée, il y a encore ceux-là qui vont venir. Je ne saurais pas dire quelles sont les raisons parce que je ne suis pas dans leur cœur, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, peut-être que les partis politiques ne sont pas intéressés. Je ne sais rien dire jusque-là, mais ce que je sais est qu'ils ne sont pas encore venus.
Notez que la date du vote des conseillers urbains et des bourgmestres au Sud Kivu n'est pas encore connue au secrétariat exécutif provincial de la CENI Sud Kivu. Kasaï Oriental, signalons la suspension momentanée des examens à l'université officielle de Mbujimayi, UOM, depuis hier, ce jusqu'à mardi prochain. Décision annoncée hier même par le recteur de cette université au cours d'un point de presse à Mbujimayi. Professeur Abe Chibaka Chikongo, recteur de l'UOM, a également annoncé la réouverture des guichets des inscriptions des étudiants non reconnus jusque-là par l'université. Le recteur de l'UOM s'exprime au micro de Esther Ndalafina.
À la demande de la coordination des étudiants, nous avons pris trois décisions. La première, c'est que le guichet des inscriptions est réouvert. Les étudiants retardataires vont pouvoir prendre leurs inscriptions, mais cela, ça va jusqu'à dimanche. Mais c'est une mauvaise habitude dans notre université parce que vous avez des gens, ils étudient toute l'année, ils présentent les examens, mais ils n'est pas inscrit. La deuxième décision que nous avons prise, c'est que la session est suspendue. Elle reprend mardi de la semaine prochaine. Parce que nous avons observé que grâce à la pression, lundi et mardi, 881 étudiants ont régularisé leur situation, ont payé les frais. Donc, pour permettre à tous les étudiants qui veulent régulariser leur situation, à la demande de la coordination des étudiants, nous avons donc accepté de suspendre la session. Comme ça, ceux qui régularisent leur situation peuvent automatiquement prendre part aux examens qui sont prévus. La troisième décision que nous avons prise, c'est que les étudiants casseurs et les étudiants qui ont donc provoqué du désordre devront donc patienter. Il y a déjà des auditions en cours. On a suffisamment de vidéos qui nous ont permis d'identifier les casseurs.
Parlons à présent de cette figure que les usagers des avenues Lukusa et Ngongolutete dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa, ne verront plus sur la route. Jean-Pierre Beakantukonki, le commissaire spécial de roulage qui régule habituellement la circulation à ce niveau, a pris sa retraite depuis le samedi 4 mai et c'est après plus de 50 ans au service de la nation. Apprécié des usagers, un sourire toujours aux lèvres, il accomplissait son travail avec sérieux et dévouement. Alpha Mpoissa, qu'il a rencontré quelque temps avant sa retraite, nous dresse son portrait.
Jean-Pierre Beyakantouko, qui était lancier 1,92 mètres d'étain sombre, toujours vêtu de son uniforme bleu de la police, un gilet fluorescent, des bottes noires, un béret et des lunettes. Il est de la première promotion de la police nationale congolaise. Il a passé plus de 50 ans au service du pays. Jean-Pierre Beya explique comment se passent habituellement ses heures de service.
J'arrive plus tard, c'est de rentrer. Je suis là jusqu'au soir. J'essaie un peu de mettre l'ordre, que la circulation passe très bien sans problème. Il y a des conducteurs, quand ils passent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire les remarques, ce n'est pas bon. J'essaie un peu de se comporter convenablement.
Mais comme tout travail, les difficultés ne manquent pas.
Je suis sur le soleil, le matin au soir, il y a la pluie, on est là. Il y a des conducteurs qui sont toujours petits. C'est ça la difficulté.
Les Kinois qui ont l'habitude de le voir en action témoignent des bons services qu'il rend à la société.
Il fait très bien son travail, parfaitement. Si des autres horloges prendraient son exemple, ça sera mieux.
À ses collègues et aux Congolais en général, Jean-Pierre Béa transmet sa devise.
Ce n'est pas trop un agent calpillé, c'est de l'avoir vivé des bêtises. Avec des conducteurs, ce n'est pas bon. Les miens, c'est de mieux leur travail. Ça donne aussi une bonne image de notre pays.
Après sa retraite, Jean-Pierre Béa dit prendre d'abord un peu de temps de repos avant de s'adonner à d'autres projets.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. Le président William Ruto décrète la journée de demain vendredi férié. Elle sera consacrée à l'hommage aux 238 victimes des inondations qui ont frappé le pays. Des pelleteuses ont détruit des maisons dans les quartiers informels de Matare et de Mukuri à Nairobi, la capitale kenyane. Le délai donné aux habitants pour évacuer ces zones exposées aux inondations ayant expiré, plus de 40 000 ménages ont été obligés de quitter leurs habitations en raison des inondations dans le pays. Par ailleurs, le syndicat des médecins des hôpitaux publics du Kenya a signé hier un accord de reprise de travail avec le gouvernement, mettant ainsi fin à une grève nationale qui avait débuté à la mi-mars et qui avait laissé les patients dans l'incertitude.
L'invité.
Il s'agit de Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD finance les travaux du programme de développement de 145 territoires dans 9 provinces. Il a reçu de Safrikas 6 ouvrages réalisés dans la province du Maniema sur les 103 attendus. Damien Mama s'entretient à ce sujet avec Florence Kizalunga.
Monsieur Damien Mama, bonjour.
Bonjour madame.
Après une année de travaux, Safrikas revient de vous remettre quelques ouvrages réalisés dans le cadre du PDL 145 territoires. Comment appréciez-vous ces travaux?
Effectivement, ça a pris à peu près une année pour avancer dans les travaux et je suis très heureux de voir que nous avons à peu près 5 infrastructures qui sont déjà prêtes sur les 103 pour la province du Maniema. Et nous avons symboliquement remis l'école primaire Lomamba dans le territoire de Kailo au gouverneur et nous allons poursuivre la remise du reste des infrastructures dans cette semaine. Mais en plus des 5 infrastructures, il y a une bonne partie qui a progressé. Vous avez vous-même constaté lorsqu'on s'est arrêté à Kampala, toujours dans le territoire de Kailo. Il y a un hôpital qui est prêt, mais parce que c'est pas encore équipé, on ne remet pas. Et nous avons beaucoup de travaux qui ont avancé dans l'ordre de 90%, 80% par là. Et nous allons continuer à remettre chaque mois, une fois que ces infrastructures sont progressivement prêtes. Les travaux que j'ai vus hier sont de très bonne qualité et ça reflète un peu les normes que nous avons dictées dès le départ. Et les entreprises sont donc appelées à se conformer à ces normes au cahier de charge, de sorte que les infrastructures qui sortent de terre dans le cadre du PDL 145 territoire dans le Maniema puissent respecter les normes qui ont été instituées par le gouvernement, mais qui respectent aussi les standards internationaux.
Vous venez de nous dire qu'il y a d'autres ouvrages à livrer. Est-ce que c'est encore dans les délais?
Bon, en fait, tout le programme dans son ensemble n'est pas dans les délais. Vous savez, on fixe un délai. Et puis, face aux défis logistiques, climatiques, sécuritaires, un peu partout, on est obligé d'ajuster. Mais quand on regarde le niveau des défis par rapport au travail qui est maintenant fait, je peux bien sûr nous féliciter d'être dans des délais raisonnables. Pas les délais initiaux, mais des délais raisonnables, parce qu'il faut bien sûr s'assurer que le cahier de charge est respecté. Et vous savez, ici, on est confronté dans le Maniema à une pénurie de matériaux de construction. Ça prend du temps pour être acheminé de localités environnantes comme le Nord Kivu, la Tchopo. Donc, dans ces conditions, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour acheminer du matériel. Et cela joue joue aussi sur les délais. Mais je peux vous rassurer que une fois qu'on a commencé, on est en train de progresser. Nous faisons la pression sur les entreprises pour accélérer. Et c'est ce que les autorités provinciales nous ont demandé. Et c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Donc on va accélérer et s'assurer que nous fassions le reste des travaux dans des délais raisonnables.
Sur une centaine d'ouvrages à remettre, seulement 5 ou 6 qu'on vient de vous remettre, vous êtes satisfait de ça?
Mais bien sûr, parce que nous ne remettons pas les infrastructures tant qu'elles ne sont pas totalement finies et équipées. Je vous ai dit, on a une vingtaine qui sont à des niveaux de réalisation qui peut même permettre aux enfants de les occuper. Mais les standards du PNUD sont tels que nous ne pouvons pas remettre une infrastructure qui n'a pas les classes finies, les plafonds terminés, les toilettes finies, les conteneurs d'eau complètement finalisés, les sanitaires posés. Donc on veut s'assurer quand même que tout est là. Et c'est parce que on veut s'assurer que tout est là que nous sommes obligés parfois de retarder un tout petit peu la remise, mais en termes de progression, les travaux progressent.
PNUD, dans le cadre d'exécution de ce projet, vous financez ces travaux dans presque 9 provinces. Quelle est la situation dans les autres provinces?
Bon, le PNUD est concerné par 9 provinces et 54 territoires. Et les travaux avancent globalement bien dans l'ensemble. Sur l'ensemble, on a à peu près une cinquantaine d'infrastructures qu'on remet ce mois. Et ça va se poursuivre ainsi dans les mois à venir. Et nous sommes confiants que nous allons atteindre les objectifs qui ont été fixés selon l'accord que nous avons conclu avec le gouvernement de la RDC.
Monsieur Damien, le prestateur de fois accuse PNUD de n'avoir pas honoré la facture de leurs prestations et ce qui leur pousse parfois d'arrêter les travaux. Est-ce que vous avez pu régler ces problèmes ici?
Bon, vous savez, le PNUD a toujours payer ses prestataires. Et donc, lorsque les entreprises arrivent à 20% et qu'on doit leur payer 40%, on doit vérifier d'abord que ce qui a été réalisé est effectif. Donc, tous ces processus font croire à certains que, bon, il y a des retards dans les paiements.
Monsieur Damien Mama, merci.
Merci, madame.
Le représentant résident du PNUD en RDC répondait aux questions de Florence Kiza. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.